Non, mais c'est bien, pour terminer la semaine, il fallait un sujet joyeux et tendre. Je crois que c'est de ça dont on a besoin en ce moment. De joie et de tendresse.
Allez, du cinéma ! Allez, du cinéma,
bonjour ! Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Quand l'extrême droite attaque la culture, tel est le nom du communiqué de la Société des réalisateurs et réalisatrices de films, tirant la sonnette d'alarme avec le film récent Quelques jours pas plus. Pourquoi toutes ces attaques ? Je vous explique tout. À côté de ça, le Festival de Cannes annonce ses derniers films en sélection officielle. Ça fait beaucoup là, non ? Oui, tout à fait, mais il y a des choses super à l'intérieur. Dans la partie audio, trois morceaux, un compositeur, aujourd'hui Trent Reznor, et dans la partie vidéo, les trailers sympas ou non qu'il ne fallait pas rater. Oui, on va parler de Deadpool et Wolverine. Et bien entendu, il y aura la question du public bronzé et une auditrice qui viendra nous parler du Scorsese que je n'ai toujours pas vu. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui regardent cette émission sur YouTube ou en podcast, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif du coup. N'hésitez pas à vous abonner à toutes les plateformes de l'univers, de YouTube en mettant la cloche, jusqu'à Spotify, iTunes, etc. Reste, il y a quelque chose qui se passe. Parce que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on va tourner des bistrots d'Andrew à Montréal samedi prochain, le samedi 4 mai, et que si tu veux participer au bistrot d'Andrew, eh ben le lien se trouve dans la description de l'émission. Sachant qu'on en a déjà tourné 3 qui vont commencer à être diffusés à partir de lundi, donc ça va en faire 3 de plus, ça va nous faire du contenu puisque c'est la dernière fois qu'on tourne des bistrots d'Andrew. Quoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous expliquerai tout en temps voulu, vous inquiétez pas. Mais pour l'heure, sachez donc que le tournage de samedi prochain, samedi 4 mai, c'est la dernière fois qu'on tourne des bistrots d'Andrew. Donc si jamais tu veux y participer, c'est un peu maintenant ou jamais. Donc voilà, si tu es à Montréal et que tu es dispo samedi 4 mai, n'hésite pas à remplir le formulaire pour participer au dernier tournage des bistrots d'Andrew. Et nous, on sera là et on parlera de cinéma. Et ce sera sympa. En attendant, commençons avec l'émission quand même, parce que le pire podcast cinéma, c'est 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le gros sujet du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Allez, aujourd'hui, on tente de remettre du contexte. On va essayer d'expliquer les choses et de prendre du recul, prendre de la hauteur sur un sujet qui, d'habitude, rend les gens vénères en à peine quelques secondes. Ça va pas être simple. Non, ça va pas être simple. Il y a quelques semaines, je vous parlais d'un film sorti le 3 avril en France et qui s'appelle Quelques jours pas plus. Un film réalisé par Julie Navarro et avec dans les premiers rôles Camille Cotin et Benjamin Biolay. Le pitch, je vous le rappelle, on suit un ancien journaliste critique rock qui va découvrir le journalisme de terrain et notamment l'évacuation d'un camp de migrants. Sur place, il va tomber amoureux d'une responsable d'association et, étant sous son charme, va accepter d'héberger un jeune Afghan. Voilà, ça c'est le pitch de base. Est-ce qu'on est énervé ou pas encore ? Je viens juste de donner le pitch, hein, c'est juste un pitch. À l'époque, moi-même, j'avais pas été tendre avec le film. J'avais dit que je trouvais étonnant qu'un sujet aussi fort soit la trame de fond d'une comédie romantique. C'est-à-dire que d'un côté, ça permettait de rendre le sujet banal, et en même temps, est-ce que la question des migrants est un sujet qui doit être traité de manière banale ? Je m'interrogeais même, et pas sur la question des migrants, mais sur le fait d'avoir comme premier rôle un type qui joue un journaliste rock, trash, qui saccage des chambres d'hôtel. Je me disais, ouais, bah c'est quand même un sujet très milieu journalistique parisien qui va pas parler à grand monde à part ce milieu-là. Parce que, en comparaison, la question des migrants, c'est un sujet beaucoup plus commun, c'est un sujet de société important. La question de l'hébergement, des parcours de vie, avec toutes les futures migrations climatiques qui vont se produire, oui, c'est un sujet important à aborder, notamment à travers la culture. Je trouvais personnellement que le sujet de la migration était un sujet plutôt fédérateur. Au contraire, justement, de l'histoire du journaliste rock qui tombe amoureux de la nana dans une asso, que je trouvais beaucoup plus auto-centré. C'est mon point de vue, et surtout, c'est un point de vue de mec qui a pas vu le film. Bah oui, parce que là, je vous en parle à partir des bandes annonces que j'ai vues, des critiques que j'ai lues autour. Est-ce que le film est bien plus que ça ? Est-ce qu'il est bien moins que ça ? Personnellement, j'en sais rien. Juste, je m'interroge. J'ai posé des questions, mais je ne peux pas donner d'avis définitif sur le film. Et je pense que pour notre santé mentale à tous, ce serait pas mal qu'on fasse ça, qu'on donne pas notre avis sur un truc quand on l'a pas vu. Vraiment, pour le bien commun. Je veux dire, par exemple, j'ai pas lu le manga My Hero Academia. Mais si demain, je commence à lâcher des grands « C'est quoi votre truc de gamin, là ?»« Non, mais alors, j'ai pas vu, mais ça a l'air nul à chier, super niais !» Bah, il est fort probable que vous essayez de m'attraper par le col. Vous allez dire « Victor, t'es bien gentil, mais ferme ta gueule, va lire le truc et fais-toi ton avis toi-même, connard !» Bah, le cinéma, c'est pareil. on va voir les trucs et on se fait son avis. Mais ça n'a pas empêché le film quelques jours pas plus de se prendre une vague d'harcèlement massif qui continue encore aujourd'hui. La sonnette d'alarme a été tirée par la SRF, la Société des réalisatrices et réalisateurs de films, qui a fait un communiqué du nom de « L'extrême droite attaque la culture ». Il commence le communiqué en citant des messages qui ont été postés sur la page Facebook du distributeur du film. Et ça va comme ça. « Un truc pro-migrant à vomir ». Les Français d'abord, la daube habituelle financée par le contribuable à éviter et même à dénoncer, et la solidarité pour les Français, ça fonctionne aussi ? On aide d'abord nos Français et les migrants, on les laisse sur leur bateau flottant. Voilà le niveau. Et ces messages n'ont pas été postés par des spectateurs, non, ils ont été postés juste après la mise en ligne de la bande-annonce du film, un mois avant sa sortie. Et si vous m'écoutez vous raconter tout ça, je pense que vous faites pas partie des gens qui ont posté ces messages. Bah non, parce que vous êtes plus intelligent que ça. Vous savez que on poste pas un message sans avoir vu le truc avant. Le problème, c'est qu'il y en a eu un paquet des messages. Il y en a eu un millier. Voilà, oui, non, ça fait beaucoup. Et ça s'est pas cantonné aux messages sur Facebook. La page Allociné du film a été prise d'assaut par aussi un paquet de gens qui sont allés noter le film bien avant sa sortie, avec des notes allant de 0 sur 5 à 1 sur 5. Et tout ça en boucle, avec comme but de pourrir le référencement de la page en question. Et le problème, et c'est ce que soulève la SRF, c'est que c'est pas la première fois que ce genre d'événement se produit. Ils balancent la liste, hein. Amine de Philippe Faucon en 2016, Rodéo de Lola Kivoron et Les Engagés d'Émilie Frèche en 2022, Les Rascals, Ma France à moi, Avant que les flammes ne s'éteignent. Tous ces films ont subi exactement la même chose. Des milliers de messages à tendance xénophobe et raciste. Parce que oui, il faut dire les termes. Au bout d'un moment, vous avez vu les messages que je vous ai lus avant. Certains vont dire non, mais c'est du sous-texte. Le sous-texte, il est quand même bien bien présent. Il est pas dessous, hein. Et ensuite, des raids sur les différents sites de notation, ce qui a de véritables conséquences sur le milieu du cinéma ensuite. Parce que ouais, t'es exploitant de salle. Tu vois qu'un film se fait éclater comme ça. Tu te poses la question. Est-ce que je le sors dans mon cinéma ou est-ce que je le sors pas? Et puis même à côté, t'es producteur de films, tu vois ce qui se passe quand on aborde ce genre de sujet au cinéma, tu te poses la question. Est-ce que je donne 3-4 ans de ma vie à un film qui risque de se faire éclater de la sorte à sa sortie par des gens qui ne l'auront même pas vu? C'est de la haine aveugle. Et j'utilise pas le terme aveugle pour rien. Parce que je pense très sincèrement que si on voit ces films ensuite, on a le droit, parfaitement le droit de dire que, possiblement, ces films sont de la merde. Oui, on a parfaitement le droit de le dire. Par exemple, je citais Rodéo, c'est un film que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé bien plus malin que sa communication. Mais à côté de ça, j'ai pas particulièrement adoré au film Les Rascals, que je trouvais un peu gros sabot à plein de niveaux et qui, je pense, terminait par ce avec quoi il aurait dû commencer. Y a pas de mal à dire ça. Je veux dire, c'est pas parce que ces films abordent tel ou tel sujet qu'ils sont forcément incroyables. Non, ils sont peut-être mauvais. Voilà, c'est possible. Et puis, à contrario, dans cette émission, vous m'avez déjà entendu défendre des films avec lesquels je ne suis pas du tout en accord politiquement. C'est-à-dire, par exemple, dans l'émission, j'ai déjà parlé de Bac Nord, que je trouve être un film actionneur policier vraiment réussi, assez brutal dans pas mal de ses séquences, notamment celle de l'attaque du château fort. Je trouve que la mise en scène de Gymnèse est vraiment, vraiment puissante. Mais est-ce que je suis d'accord avec son traitement de la réalité et la récupération politique qu'en a été fait après? Non. Ben non. Bah non, pas du tout. Mais c'est pas parce que je suis pas d'accord avec ce film que ça en fait un mauvais film. Tout simplement. Je veux dire, dans la précédente émission, j'ai passé un quart d'heure à vous expliquer à quel point j'aime Zack Snyder, alors que c'est le cliché du réac de droite qui insuffle ça à tous ses films. Ouais, mais la majorité de ses films, je les ai beaucoup aimés. Et à contrario, Vaincre ou mourir, le film du Puy du Fou, je l'ai vu. Et son problème, c'est pas que historiquement ou politiquement, il est rincé. Non, son problème, c'est que c'est un très mauvais film. Avec du docu mal intercalé à l'intérieur, des scènes de bataille imbitables, un jeu d'acteur aléatoire et des lignes de dialogue vraiment, vraiment pompeuses pour rien. Non, c'est un mauvais film. Et ça me tue que ce soit les mêmes gens qui vont cracher sur certains films américains parce que ouais, telle scène de combat, elle est nulle, mais qui, à côté de ça, vont aller sucer Vaincre ou mourir, qui échouent à tous les niveaux en termes de cinéma. Mais bon, je vais pas taper dessus vu qu'ils pensent politiquement avec moi. Le cinéma est politique, je le répète en permanence ici. Et ça ne l'empêche pas de produire des œuvres intéressantes, quand bien même cette politique n'est pas la vôtre. La question que ça pose, elle est plus large en fait, et bon, tiens, c'est une question que je vais vous poser à vous. Est-ce que vous êtes capable d'apprécier un film qui ne pense pas comme vous? Je vais même aller plus loin que ça. Est-ce que vous êtes capable d'apprécier un film qui pense contre vous? Perso, c'est un exercice que j'adore. Je le trouve intellectuellement passionnant. Cette idée de me faire une sorte de débat tout seul entre moi et le film qui me pousse à m'interroger, oui, c'est une expérience que j'aime beaucoup. Mais quand tu lis les messages que postent les gens, Télérama a relayé l'article en question, ouah, bah non, les gens, ils ont pas envie de débattre, hein. Faire vos films de propagande remplaciste sans vous goinfrer sur nos impôts, c'est trop demandé. Ce débat, encore une fois, du cinéma financé par les impôts qui n'existe pas, mais j'adore. Peut-être que les Français en ont marre des films à la moraline. Dites-leur que c'est pas des jongleurs en Sarouel qui financent leurs subventions. Ah non, mais les messages sont catastrophiques. C'est ma question éternelle, c'est à quel niveau de matrixage mental tu peux en arriver pour cracher sur un truc dont tu ne sais rien? Je parle pas d'une situation, d'un sujet de société, je parle littéralement d'un film que tu pourrais aller voir pour te faire un avis, mais non, tu décides délibérément de ne pas respecter ton cerveau et de te faire un avis sur quelque chose dont tu ne sais rien. Je trouve ça fou. C'est des personnes en plus qui passent leur temps à prétendre être renseignées sur tel ou tel ou tel sujet, mais visiblement leur intérêt de se renseigner s'arrête à la porte du cinéma. Voilà, dès qu'on parle de culture, là, il y a plus envie de se poser des questions. Mais respectez-vous, respectez votre intelligence, putain, c'est terrible. Le problème aussi, c'est le temps de réponse des plateformes. Allociné, ils mettent toujours 3000 ans à réaliser qu'il y a un raid qui se passe sur une de leurs pages, et du coup, bah voyant des critiques négatives s'amonceler, ben ça crée une sorte d'effet de meute, et puis il y en a plus qui apparaissent encore et encore, et au bout d'un moment, c'est incontrôlable. Et surtout, mon deuxième problème, que j'aimerais interroger ces gens-là, vous proposez quoi d'autre en face? Vraiment, vous, c'est quoi votre projet? Vous proposez qu'on produise plus de films qui pensent contre vous? Mais pourquoi? Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire je croyais que la liberté d'expression, c'était une valeur à mettre en avant à tout prix. Pourquoi soudainement, ça s'arrête au moment où l'expression n'est plus la vôtre? Je comprends pas, les artistes doivent pas être libres? Ils doivent pas être libres avec mes impôts! Ils sont pas payés avec tes impôts. Je l'avais dit dans je sais plus quelle émission que, en gros, chaque Français contribue au cinéma par an à environ 3 euros. Voilà. Rude, hein? Oh, beaucoup. Ou alors c'est l'inverse, vous voulez qu'on produise plus de films qui pensent avec vous? Est-ce que vous êtes au courant qu'au cours des deux dernières semaines, il y en a eu deux? Eh oui, pour de vrai. La semaine dernière, en salle, il y a eu Amal, un esprit libre qui dénonce l'islamisme radical dans les écoles. Ça a été une grosse sortie sur plus de 250 salles. Voilà. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous êtes allé le voir? Parce que vous êtes toujours prompt à être présent sur les réseaux sociaux pour défoncer certains films. Vous allez voir les autres en face? Et cette semaine en salle, il y a Notre joie demeure qui parle du meurtre du père Jacques Hamel qui a été assassiné par des terroristes. Et vous savez quoi, ce film-là, même Télérama, votre média de gauchiste, il en a fait une bonne critique. Comme quoi c'est possible. Oui, mais il a été trop peu distribué. Alors oui, c'est vrai, il a été peu distribué. Parce qu'il est sorti par un tout petit distrib, que la réalisatrice est pas très connue, que le casting est majoritairement inconnu, que c'est un tout petit budget. Et donc ces films-là, bah, ils ont pas une sortie nationale sur 800 écrans. Non, ça n'arrive pas. Et puis le film en question, il est sorti le même jour que 15 autres films. 15. Les salles de cinéma, elles sont pas extensibles. Au bout d'un moment, bah, ça bloque, y a plus de place. Les récits au cinéma sont multiples. Combien d'histoires sont racontées hors de Paris, avec des profils et des métiers totalement divers? Ça va du syndicaliste au milliardaire de la défense. Ça va du paysan au journaliste rock. Et on peut tenter de nous faire croire que le cinéma français n'est qu'un sale bastion de gauchistes, mais ça va être un peu compliqué à défendre quand on sait que le premier actionnaire du cinéma français, c'est Canal+. Et que Canal+, c'est Bolloré. Et que Bolloré, pas de gauche, quoi. Enfin, voilà, spoiler, désolé, hein, le Père Noël n'existe pas. Je parle ici de cinéma, mais il faut voir cette décomplexion du discours comme quelque chose de plus large, et qui est parfaitement résumé dans la dernière phrase du communiqué de la SRF. Il serait dangereux et totalement irresponsable de penser que ce problème ne concerne que le cinéma. Et à ce niveau-là, ouais, pas mieux, ouais. On le savait, les annonces de films à Cannes, ça n'est jamais terminé, il y en a toujours qui arrivent à sortir d'un chapeau, et il faut dire que pour la sélection officielle, là, il y en a eu un paquet, mais toujours pas les Dardennes. Ni le film secret de David Lynch, ni Mektoub Maïlov Kanto Doué. Ils sont probablement perdus. Du coup, 13 films ont été ajoutés. On va pas revenir sur tous en détail parce que sinon ça va prendre un siècle comme la dernière fois. Non, je vais essayer de vous donner quelques infos sur pourquoi tel ou tel long métrage devrait vous intriguer un peu fort. Tout d'abord, dans la catégorie Un certain regard, il y a 3 nouveaux films. When the Light Breaks de Runar Runarsson, qui est un réalisateur islandais. Il fera l'ouverture d'Un certain regard. Il y a aussi le film Flow de Jens Zilbalodis. J'arriverai pas à le prononcer. C'est un deuxième film, mais surtout c'est un film d'animation. Il va y avoir de l'animation en UCR. Ça, c'est cool, moi qui m'en plaignais la dernière fois. Et il y a aussi Nikki, le premier film réalisé par la comédienne Céline Salette, avec au casting Charlotte Lebon, Damien Bonnard, et c'est sur la vie de l'artiste plasticienne Nikki de Saint-Phalle. Après, il y a la catégorie Cannes première, qui s'appelle aussi la catégorie « Ça part à Cannes et pas à Venise, on vous fait la nique ». Et 2 films ont été ajoutés. Tout d'abord, « Vivre, renaître, mourir » de Gaël Morel, avec au casting Lou Lampro, Victor Belmondo ou Théo Christine, qui parle d'un trouble bi de la fin du siècle au moment où arrive le sida. Et surtout, un film qui était très attendu, on savait pas où il se retrouverait, et ben il est quand même à Cannes, c'est « Maria » de la réalisatrice Jessica Palu, qui avait sorti Revenir en 2020 et qui l'a fait un film sur Maria Schneider qui a trouvé la gloire sur le tournage du Dernier Tango à Paris de Bertolucci. Et on a au casting Anna Maria Bartolomei qui joue Maria Schneider, c'est Matt Dillon qui joue Marlon Brando et il y a aussi plein d'autres gens, il y a Yvan Attal, etc., etc. Dans les séances spéciales ensuite, il y a un paquet de trucs. Il y a Nasty de Tudor Georgiou, il y a Spectateur qui est le nouveau Desplechin. Desplechin est à Cannes avec tous ses films, donc évidemment qu'il allait être là avec son nouveau. C'est à moitié de la fiction, à moitié du docu, le but c'est de parler du bonheur qu'est l'expérience de la salle de cinéma, donc je trouve ça plutôt intéressant. Il y a Lula, qui est un documentaire réalisé par Oliver Stone, qui a suivi le président brésilien à la fois pendant son incarcération, mais aussi ensuite pendant sa reconquête du pouvoir. Et enfin, il y a An Unfinished Film de Lu Ye, qui a l'air super intéressant, c'est un film chinois sur des gens qui se réunissent pour terminer un projet de film qu'ils ont laissé en suspens pendant beaucoup trop longtemps. Le problème, c'est qu'ils se réunissent à Wuhan en 2020. Donc en fait, en termes de timing, il y a un truc, ça va capoter. Un film a été ajouté en hors compétition, c'est Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney. Voilà, on se demandait si le film allait se retrouver ou pas au Festival de Cannes. Il sera présent, c'est le seul hors compétition qui a été rajouté. Je m'attendais à une présence internationale en plus en compétition, genre un truc genre Vice Versa 2 pour avoir plus d'animation. Non, mais ça n'y sera pas. Mais en compétition ont été rajoutés 3 films et cette fois-ci, oui, de l'animation, à savoir La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. On se demandait aussi où est-ce que le film allait se retrouver et il a toute sa place en compète. De l'animation en compète, ça fait plaisir. 3 kilomètres jusqu'à la fin du monde, qui est le film de Emmanuel Parvu, qui est un film roumain sur une ado qui découvre qu'elle est gay, voilà, et qui va devoir vivre avec ça en Roumanie. Et enfin, le dernier film ajouté en compétition, c'est The Seed of Sacred Fig de Mohamed Rassoulov. Alors, Mohamed Rassoulov, qui a été un grand habitué, lui, plutôt, de Un Certain Regard. Il y a été présent 3 fois, je crois, et il a gagné le prix, je me l'ai noté, le prix Un Certain Regard en 2017 avec Un Homme Intègre. Et le dernier film qu'il a sorti, c'était Le Diable N'Existe Pas, qui avait remporté L'Ours d'Or au Festival de Berlin. Donc ça fait un paquet de films en plus à voir pendant ce Festival de Cannes, et ça me permet d'ailleurs d'ajouter qu'en Cannes classique, ils ont ajouté un truc un peu spécial, à savoir le dernier film du regretté et décédé Jean-Luc Godard. Oui, parce que Jean-Luc Godard a fait un film qui s'appelle Scénario, c'est un film de 18 minutes qu'il a réalisé 24 heures avant de se donner la mort. Voilà, ça doit être spécial. Et donc t'as ce film de 18 minutes, plus un autre film de 34 minutes où il explique le projet de ce film, etc. C'est vraiment un testament filmique fait 24 heures avant de passer à l'acte, et je trouve l'idée assez intrigante, ouais. Bref, ça fait un paquet de films à voir à Cannes, on va avoir le temps d'en reparler de Cannes vu que ça démarre dans 3 semaines environ. Ah oui, ça va arriver vite. Mais il y a d'autres sujets qui font l'actualité, et pour l'heure, on avance.
Un compositeur, 3 morceaux. Dans la partie podcast du vendredi, nous revenons chaque semaine sur un compositeur marquant à travers 3 de ses œuvres sélectionnées par mes soins. Pas forcément les plus mémorables, mais certainement celles qui me touchent le plus et permettent surtout de parler de cinéma. Alors installez-vous confortablement, mettez un casque sur vos oreilles et laissez la musique vous emporter. Un compositeur, 3 morceaux. Aujourd'hui, Trent Reznor et Atticus Ross. Impossible de citer tout d'abord Reznor sans parler de la formation dont il est encore aujourd'hui l'homme orchestre, Nine Inch Nails, groupe de métal industriel dont le premier album est sorti en 1989. C'est des années plus tard qu'il fait la rencontre de Ross, qui collaborera à ses albums, jusqu'à fonder en 2010 ensemble le groupe How to Destroy Angels. Mais 2010, c'est aussi l'année où ce duo voit le cinéma leur ouvrir les bras. Et c'est avec le film The Social Network. D'abord réticent à l'idée de participer au projet, épuisé par une récente tournée, c'est à la lecture du scénario que Trent Reznor accepte la proposition du réalisateur David Fincher de composer la bande originale, en collaboration avec celui qui deviendra donc son partenaire régulier au cinéma, Atticus Ross. Et pour raconter une révolution numérique telle que l'arrivée de Facebook, les deux plongent dans des sonorités électroniques, sans délaisser la patte rock qui a fait leur succès. Un mélange des genres, un nouveau territoire à explorer, dont le morceau A Familiar Taste est le parfait reflet. Bien que je ne parle d'habitude que de cinéma ici, difficile de faire l'impasse sur une série dont la bande originale est considérée par beaucoup comme le meilleur travail de ses auteurs. Watchmen. Créé par le génie Damon Lindelof, déjà à l'œuvre derrière Lost ou l'incroyable The Leftovers, la série fait le pari difficile que de raconter la suite du comics d'Alan Moore, ses conséquences et ses répercussions dans une Amérique contemporaine. Il y a la reprise, mais il y a surtout la réinvention. Et quitte à rester dans ce registre, je ne peux m'empêcher de citer un des morceaux qui me touche le plus sur cette BO, sortie en 3 volumes. Quelques notes de David Bowie, concluant un épisode 7 complètement fou, et qui prennent soudainement un autre sens. Une véritable relecture de Life on Mars. Bien que je ne cite depuis le début que des univers sombres, tâchons de conclure avec une note plus tendre. Envolons-nous chez Pixar et l'une de leurs récentes réussites, Soul. Difficile de trouver sa place dans un film aussi référencé musicalement, mettant sans cesse en avant des sonorités jazz via des compositions originales de John Batiste. Alors, plus que de faire ressentir la musique du monde qui les entoure, le rôle de Reznor et Ross consiste cette fois-ci à retranscrire une musique plus intérieure, celle des sentiments, des rêves et des espoirs, dont un titre symbolise tous ses sens profonds, Épiphanie. Trois morceaux c'est peu, mais trois morceaux c'est déjà beaucoup. C'était trois morceaux de Trent Reznor et Atticus Ross.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis est-ce que vous avez une question sur l'actualité du cinéma. Et si vous en avez une, eh bien, n'hésitez pas à la poser. Et ensuite, je réponds à la question si jamais j'ai un avis. Le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description. Et aujourd'hui, la question nous vient de Joker73 qui demande « Et Victor, un avis sur le possible retour du Splendid ?» Pourquoi pas, mais pourquoi faire ? Le Splendid, normalement, vous connaissez la troupe de théâtre qui est ensuite passée au cinéma avec les bronzes. Avec les bronzés font du ski, avec le Père Noël est une ordure, avec Papy fait de la résistance, et qui est composé de Christian Clavier, Bruno Moineau, Michel Blanc, Josiane Balasco, Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle ou encore Gérard Jugnot. Ils étaient réunis tous récemment pour faire la couverture des 75 ans de Paris Match. Il y a une vidéo d'ailleurs du shooting en question que je vous ai mis dans la partie source de cette émission. Je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo. Parce que la vidéo est plaisante, tu vois une bande de vieux copains se retrouver et se vanner avec une vraie sincérité pour le coup. Quant à Gérard Jugnot qui arrive en vélo et que Clavier lui fait des vannes là-dessus et tout, c'est plaisant, c'est touchant de les voir se marrer après tant d'années. Et du coup, Paris Match leur a demandé « Est-ce que vous aimeriez refaire un projet tous ensemble ?» Et la question a été un petit peu la même que d'habitude, à savoir « Ouais, mais pour ça, faut trouver le bon, quoi. » Michel Blanc, lui, il a dit « Ok, mais pas les bronzés, parce qu'il déteste le troisième film. » Et il a raison. Et il a ajouté en plus, on sait plus faire cet humour-là, c'était il y a bientôt 50 ans, le monde a évolué. Et vu qu'en plus ils arrivent jamais à se capter, Marianne Chazelle a dit derrière, ce qui serait chouette, c'est que quelqu'un écrive un scénario qui nous convienne. En gros, il cherche une impulsion externe et à partir du moment où tout le monde sera rassemblé autour d'un scénar, eh ben, démocratiquement, ils décideront de est-ce qu'ils le font ou est-ce qu'ils le font pas. Et il y en a un qui aimerait bien le faire, ce film-là en question, le nouveau roi de la comédie en France, à savoir Philippe Lachaud avec sa bande à Fifi. Il a dit clairement qu'il cherchait justement un projet qui permettrait de mêler sa bande à la leur, une sorte de gros multiverse de la comédie française. Il a juste pas encore la bonne idée. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Si c'est sous la direction de Lachaud, dont je déteste la quasi-intégralité des films, ouais, non, bah là, ça me chauffe pas particulièrement. Par contre, est-ce que j'ai envie de voir tous ces comédiens réunis à nouveau pour faire un long métrage? Oui, carrément. Parce qu'ils sont tous incroyables. Outre Moineau, qui a une carrière plus discrète, tous ces gens font quand même partie des comédiens français qui, en termes de comiques, sont les plus forts et les plus talentueux qu'on a actuellement. Et je suis très sérieux là-dessus. Balasco, je suis amoureux d'elle depuis que j'ai vu Trop belle pour toi. Vraiment, elle a un phrasé, une manière de délivrer son texte qui me perce le cœur à chaque fois. Marie-Anne Chazelle, elle a des choix de carrière qui sont absolument désastreux, mais elle a toujours une candeur à l'image, quelque chose de touchant, de quelque chose de naïf, qui est plaisant, même encore aujourd'hui. Thierry Lhermitte, il a troqué l'image du beau gosse baiseur pour celle du papy sympa avec un certain flegme, et ça marche pas mal. Le vrai papy sympa, ça reste aujourd'hui Gérard Jugnot, qui a un capital sympathie naturel absolument immense, et qui en même temps sait aller dans le plus méchant, dans le plus sarcastique, et je l'aime beaucoup là-dedans. Il faut que je revoie Papy fait de la Résistance, il est fou à l'intérieur. Vous inquiétez pas, c'est français, c'est la police française, madame. Le meilleur comédien de la bande, c'est Michel Blanc. Ça, il y a trop de films qui le prouvent. Il y a une dizaine d'années, il avait fait l'exercice de l'État. Depuis 10 ans, ça ronronne un peu plus sa carrière, mais il a quand même une présence qui est ultra marquante. Et Clavier, c'est le plus drôle de tous. Alors, attendez, je déteste quasi tous les films dans lesquels il a joué ces 15 dernières années. Mais en termes de tempo comique, ce mec est imbattable. Même dans les pires films avec les pires dialogues, il a des mimiques, il a un ton, il a une manière de poser ses blagues qui fait que tu le regardes faire, tu dis putain, mais il est juste trop fort. Oui, je suis en train de défendre Christian Clavier. Ah non, mais attends, tu peux être super et jouer pendant des années que dans des merdes. Hein. C'est un peu le résumé de sa carrière depuis un moment. Hein. Même le dernier film de Bertrand Blier qui est pas ouf, qu'on voit exceptionnel, t'as une scène où c'est juste un monologue de Christian Clavier qui est filmé en plus assez serré. Il a pas de moyen de bouger vraiment. Il est juste assis par terre. On filme que sa tête et il délivre ses lignes pendant 15 minutes. Et c'est la meilleure scène du film. Elle est brillante, cette scène. Il est trop fort. Le film, lui, bon, il est pas ouf. C'est un film d'1h20 où faut faire sauter la moitié. 40 minutes achetées. Donc, ouais, c'est un peu compliqué à regarder. Mais oui, tous les voir réunis, je suis trop chaud. Vraiment, je suis trop chaud. Et vas-y, Philippe. Let's go. Crée la magie. Mais crée un bon film, surtout. Surtout ça. Vraiment, c'est le plus important, Philippe.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle de film, non. C'est un auditeur ou une auditrice qui vient prendre la parole. Et pour ça, il lui a suffi d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Tu envoies un audio d'environ 3 minutes, tu parles du film que tu veux, récent ou non. Et après, j'écoute tous les audios et je me dis, tiens, celui-là, est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que celui-là un peu moins? Voilà, je me renseigne et après, j'en sélectionne un. Et il y a un truc qui a failli bloquer l'auditrice d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, elle a oublié dans son audio de dire le nom du film. Juste, elle en a parlé, et j'ai compris quel film c'était ensuite, mais elle a oublié de dire le nom du film. Mais elle avait un certain ton qui me plaisait, il y avait une passion qui se dégageait de son discours, je me suis dit, ah, je la garde. Elle s'appelle Daya, et j'ai compris avec le temps que le film dont elle parle, c'est The Irishman.
Hello le Pire Podcast, hello Victor, hello à tous. Merci pour ce petit temps d'expression qui est accordé aux auditeurs du Pire Podcast. Alors moi, s'il y a un film dont je veux parler absolument, c'est un film qui est tombé sur Netflix pendant le Covid. Il y a eu 2 avant-premières, il me semble, au Film Festival de New York et au Festival des Lumières de Lyon. Ensuite, on a eu la chance de le voir sur Netflix. C'est un film de 3h19. Beaucoup ont décrié la durée. Oui, non, mais ça, il dure trop longtemps. On n'a pas envie de se poser sur un canapé pendant 3h19 un matin. Un film, c'est un film merveilleux de Scorsese. Enfin, 3h19 bloqué dans un ascenseur, c'est long, je vous l'accorde, mais 3h19 devant cette pépite, c'est un ressenti d'1h, quoi. C'est comme la météo, tu vois, il fait 27, ressenti 20. Il faut absolument le regarder. C'est un film merveilleux qui réunit quand même un casting de ouf, à savoir Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino, Harvey Keitel, Stephen Graham, Jesse Plemons. C'est l'histoire de la rencontre entre Russell Bofalino, qui est un membre de la mafia italienne, avec Frank Sheeran, qui n'est autre qu'un camionneur, un pauvre camionneur qui travaille à Philadelphie dans les années 50. Cette rencontre va vraiment, vraiment marquer son histoire et va être un tournant dans l'histoire de Frank Sheeran, puisque de simple camionneur, il va passer à tueur à gages pour la mafia italienne. C'est la rencontre aussi entre, donc surtout la rencontre entre Frank Sheeran et Jimmy Hoffa qui est le patron du syndicat des camionneurs à l'époque à Philadelphie, le syndicat des Teamsters, qui est très connu. Et de là va naître toute cette histoire qui est portée par Robert De Niro et Al Pacino et Bobby Cannavale de manière brillantissime. On est sur un fond de relations très très tendues entre la mafia italienne et le gouvernement américain, à l'époque le gouvernement des Kennedy, parce que l'histoire veut que c'est la mafia italienne, le vote, le lobby de la mafia italienne qui a amené la famille Kennedy au pouvoir. Et on est en plein dans l'époque où Bobby Kennedy, il est ministre de la Justice et qu'il a qu'une seule envie, c'est d'éradiquer la mafia italienne qui les a menés là où ils sont. La soundtrack, c'est une soundtrack de malade. On a The Five Satins in the Still of the Night. C'est juste ouf. On connaît Scorsese, on connaît ses soundtracks dans tous ses films. C'est juste des choix très très pointilleux qu'il a. Mais dans ce film-là, j'ai envie de dire, c'est tellement beau, c'est tellement... Chaque fois, t'es là en train de chasamer des musiques que tu connais, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Les transforme tellement et les scènes sont tellement belles portées par ces musiques tellement bien choisies. Enfin, tu te dis à un moment donné, mais où va-t-on? Mais qui suis-je? Moi, j'adore. On a, c'est vrai, un procédé qui est le procédé du de-aging que beaucoup ont décrié en disant, ouais, mais c'est super moche et tout. Ils ont été obligés d'utiliser le de-aging parce qu'on a des scènes de fighting et des scènes de course-poursuite que Joe Pesci et Robert De Niro, depuis leur grand âge, n'ont pas pu performer parce que leurs articulations ne le leur permettent plus. C'est très beau. Malgré le de-aging, je suis d'accord sur certaines scènes, c'est un peu abusé, mais le jeu est tellement ouf, les scènes sont tellement belles, ce film est merveilleux, je l'aime, c'est mon film, c'est mon coup de cœur, vraiment, regardez-le si vous l'avez pas encore vu. Merci.
C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien et que tout va bien par chez vous. Que vos amis, vos compagnons, vos compagnonnes, vos frères, vos sœurs et tous ces gens-là vont bien. Moi, de mon côté, vous l'avez compris avec l'émission qui a sauté lundi, la semaine n'a pas été très, très, très facile, mais on avance. On fait les choses, on construit, on déconstruit. Il y a plein de choses qui vont se passer pour l'émission, vous verrez. En attendant, on se retrouve lundi pour le pire podcast cinéma parce que ça continue. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.